Chapitre 47. Impressionné par la taille de la bibliothèque de surplomb du monde, Nathan aurait juré qu'elle contenait tous les secrets de l'univers, à condition de savoir où les trouver, ce qui n'était pas son cas. Et ça ne semblait pas vouloir s'arranger, constata-t-il en grignotant un des biscuits apportés par une acolyte, parce que personne ne saisissait l'énigme dans son ensemble. Les centaines d'érudits et de mémoristes ne détenaient que des fragments de vérité. Ça revenait à vouloir repérer les constellations dans un ciel nocturne plombé où seules quelques étoiles brilleraient assez pour être visibles. De toute façon, les constellations avaient changé et tout le monde allait devoir réapprendre l'univers depuis le début. Son biscuit terminé, le vieil homme en prit machinalement un autre. Alors qu'il levait les yeux du grimoire posé devant lui, estimant en avoir terminé, une jeune érudite arriva avec une brassée d'autres ouvrages. Mia était une de ses assistantes. 19 ans à peine, de courts cheveux bruns et des yeux vifs, elle semblait plus habituée à lire qu'à communiquer avec autrui. « J'ai trouvé ces grimoires pour vous, sorcier Nathan. Ils pourraient contenir des informations intéressantes. » Fille de résident du canyon, Mia avait grandi dans les livres et les études. Née juste après le départ de Roland, elle avait l'âge de la balafre. « Merci, Mia !» fit Nathan avec un sourire parfaitement sincère. Dès qu'il lui demandait des textes sur un sujet, la jeune femme lui en rapportait par dizaines, et pendant qu'il lisait, elle consultait d'autres ouvrages avec l'espoir de lui être utile. Prenant le premier volume, Nathan l'ouvrit à la page du titre.
« Un traité sur la croissance des plantes et comment l'améliorer ?»«
Oui !» On pourrait y trouver des armes à opposer au buveur de vie, lui qui prive toutes les plantes d'énergie. Qui sait? Les sorts fondateurs ont peut-être des points communs.
Bien raisonné, excellente suggestion. Même si c'est fort peu probable en réalité.
Le livre suivant était rédigé dans une langue que le vieux sorcier ne reconnut pas.
Des symboles géométriques et des runes, apparemment, d'où semblait monter une sorte de pouvoir. Comme si ça pouvait l'aider à comprendre, Nathan laissa courir ses doigts sur les pictogrammes. « Tu connais cette langue, Mia ?»«
Ce n'est pas du Haut-Daran, ni un idiome de l'Ancien Monde dont je suis familière. » La jeune érudite repoussa en arrière ses courts cheveux bruns. « Certains de nos plus vieux parchemins sont rédigés dans cette langue. Personne ne parvient à les déchiffrer. Selon certains érudits, ils ont été volés dans une antique bibliothèque d'Ildakar. » Nathan posa sur la table ce volume incompréhensible qui ne lui servirait à rien. En revanche, il fut ravi de voir que le livre suivant contenait des cartes d'une très vaste région, mais sans l'ombre d'une référence permettant de l'identifier. Sur une page, on voyait une chaîne de montagnes, avec ses grands contreforts et ses pics déchiquetés. Des lignes en pointillés indiquaient comment atteindre les sommets par des chemins sinueux et dangereux. Les noms des cours d'eau et des monts ne dirent rien à Nathan, jusqu'à ce qu'il en trouve un très particulier. Colader. Le vieux sorcier retint son souffle. Ainsi sa destination finale existait bel et bien. Sur ce point, au moins Rouge ne s'était pas trompé. La grande vallée sur la carte représentait-elle la région autrefois fertile qu'on appelait aujourd'hui la Balafre? Nathan aurait donné cher pour retrouver sa magie, ne serait-ce que pour affronter le buveur de vie. Car enfin, on ne pouvait pas exiger de Nietzsche qu'elle sauve le monde toute seule. Au début du voyage, il ne s'était pas lamenté d'avoir perdu son don de prophète. Tout bien pesé, les prédictions à fourche et les avertissements incompréhensibles ne lui avaient valu que des ennuis et du malheur. Mais sa magie, c'était autre chose. Une partie de lui-même, ce qui le rendait entier. Même si la carte le fascinait, ses priorités intimes devaient passer en second. Posant l'ouvrage, il réfléchit au désastre provoqué par le buveur de vie. La solution se trouvait-elle dans ses livres? Une fois engagés sur le chemin pentu de la Mesa, Nietzsche, Chardon et Bannon éprouvèrent un profond soulagement à l'idée d'avoir laissé la balafre derrière eux. À son aise sur ce terrain, Chardon caracola très vite devant. Moins agile, Nietzsche progressait plus lentement. Se retournant, elle vit qu'un vent violent soulevait des colonnes de poussière sèche qui, de loin, ressemblaient à des émanations méphitiques. Devant l'entrée de surplomb du monde, où Bannon l'attendait déjà, la magicienne se retourna de nouveau. Le jeune homme l'imita et ils regardèrent ensemble la tanière du buveur de vie.
« L'idée d'y retourner te tente, magicienne ?» demanda Bannon. « Pour être franche, pas du tout, mais je sais que nous y serons obligés. » Dans un coin de son esprit, Nietzsche sentit la présence discrète de Mra. Désormais solitaire, la panthère arpentait la balafre. Après avoir passé sa vie dans une troca avec deux sœurs félines, elle était liée à Nietzsche mais sans savoir comment l'aider. Dès que ses trois amis furent revenus dans la bibliothèque, Nathan accourut et se réjouit de les revoir entiers. Après le récit de leur combat contre les hommes poussières puis les panthères, il tapota paternellement l'épaule de Bannon.
« As-tu utilisé les bottes que je t'ai montrées, fiston ?»«
Oui, je n'en ai oublié aucune. » Nietzsche se souvint des mouvements désordonnés du jeune homme. Mais qu'importait, puisqu'il avait fait rendre gorge à leurs ennemis. On n'allait pas chipoter sur des détails techniques.
« J'ai tué autant de méchants que lui !»
annonça Chardon.
« Je n'en doute pas, petite, et c'est bien ce que j'attendais de toi. Mais Bannon est mon disciple et je voulais m'assurer qu'il s'en était bien sorti, comme toi. »
« Même si tu n'étais pas censé venir, » dit Nietzsche à la gamine, « j'ai été content de voir que tu sais te débrouiller. » Le compliment fit mouche et la réprimande à peine voilée n'eut aucun effet.
« Je suis ta disciple, Nietzsche ?»
demanda Chardon. Cette idée déconcerta la magicienne. La petite orpheline s'était révélée utile et pleine de bonne volonté, mais elle n'avait aucune aptitude pour la magie.
« Une disciple en quel sens ?»
« Je ne pourrais pas faire de toi une magicienne.
Je pensais t'aider à trouver des livres dans les archives, puis à les lire. Tu dois faire beaucoup de recherches, non ?»
À sa grande surprise, Nietzsche découvrit que l'idée d'avoir Chardon pour assistante ne lui déplaisait pas.
« Je veux bien que tu m'aides, si tu ne deviens pas un boulet.
Oh, ça, je te le promets !»
Quand les érudits furent réunis, Nietzsche fit un rapport plus détaillé sur la balafre. Les canyons, les fumerolles, la boue en fusion et les divers défenseurs du buveur de vie. En plus, elle dessina une carte aussi précise que sa mémoire le lui permit.
« Près de la tanière du sorcier, je suis sûr que nous affronterons ces sbires les plus dangereux. Il faut se préparer à tout. »
La magicienne dévisagea Nathan puis balaya du regard les érudits.
« Dès que vous m'aurez trouvé une arme, je m'en servirai pour tuer ce monstre. »
« Je suis sûr, » affirma Simon. Que la solution est ici. »
Les érudits acquiescèrent puis murmurèrent entre eux.
« Il suffit de trouver les bons textes, »
conclut l'archiviste en chef. Après la réunion, tous passèrent dans la salle à manger pour le repas du soir. Pendant que Chardon mangeait avec les doigts, des deux mains parce qu'elle crevait de faim, Victoria fit son entrée, ses mémoristes sur les talons. Elle les guida jusqu'à Nathan pour qu'il puisse lui décrire les sujets des livres qu'il s'échinait à mémoriser. Audrey, Laurel et Sage s'assirent près de Bannon et burent littéralement ses paroles. Puis elles se firent un plaisir de le nourrir de légumes grillés, de petits pains frais et de brochettes d'agneau. Emporté par son récit, le jeune homme fit de grands gestes. Attentive, Sage prit une serviette et lui tamponna les coins de la bouche. Bannon s'en empourpra jusqu'aux oreilles.
« Quand il rougit, » minauda Audrey, « ses taches de rousseur disparaissent. »
Ce commentaire taquin ne fit rien pour apaiser Bannon qui vira à l'écarlate.
« J'apprécie toutes vos attentions, » dit-il. « J'ai rarement un si beau public. »
Déglutissant avec peine, il but un peu d'eau de source, puis souffla un « douce merle amère » plein de ferveur. Victoria vint se placer derrière Bannon et sourit à ses acolytes.
« Je comprends que ce garçon vous plaise, » dit-elle comme si le jeune homme n'était pas là. « J'espère que vous ne finirez pas comme moi, seul et sans enfant. »«
Je... » balbutia Bannon. « Je n'ai pas l'intention de m'installer ici et d'épouser quelqu'un. »
Il regarda Nietzsche comme s'il l'implorait de voler à son secours.
« Nous sommes en mission, » dit froidement la magicienne. « Après t'avoir évité la mort à Tanimura, je t'ai dit d'apprendre à te sauver tout seul. » Même remarque quand il s'agit de ta vie privée. »
Le jeune homme sembla ne plus savoir où se mettre. Couvant ses acolytes d'un regard de mère poule, Victoria soupira.
Des parchemins desséchés, des livres poussiéreux ne remplacent pas l'ivresse de sentir la vie grandir en soi ou de serrer un bébé dans ses bras. Un jour, vous vous en apercevrez.
Les trois acolytes sourirent. Victoria approcha de Chardon, occupé à se goinfrer de raisin. Toujours dans sa pauvre robe, la petite ne payait pas de mine.
« J'ai de bonnes nouvelles pour toi, ma chérie, » dit Victoria.
Elle posa un ballot sur la table et l'ouvrit.
« Ici, nous avons très peu d'enfants et pas de vêtements vraiment saillants. Donc, j'ai demandé à une couturière de t'en confectionner. »
Victoria déplia une petite robe rose coupée à la perfection pour Chardon, qui cessa de mâcher ses grains de raisin.
« Une nouvelle robe ? »
dit-elle sans trop savoir comment réagir.
« Je n'en ai jamais eu une comme ça. »
La mémoriste en chef rayonna.
« Tu n'auras plus besoin de porter des haillons. Tu es déjà jolie. Dans cette robe, tu seras magnifique. Tu aimes la couleur. La teinture est fabriquée avec de la roche du canyon réduite en poudre. »
Très coquette, la robe semblait peu adaptée à la vie d'une petite aventurière chasseuse de lézards. Chardon interrogea du regard Nietzsche, qui répondit en toute franchise
« Généralement, je n'aime pas le rose. »
À tel point qu'un jour, dans la forteresse du sorcier, elle avait utilisé la magie soustractive pour éliminer cette couleur d'une chemise de nuit.
« Je crois que je préférais mon ancienne robe, » dit Chardon. « Celle-là est très belle, mais je ne voudrais pas la salir quand j'accompagnerai Nietzsche dans ses explorations. Lorsque nous en aurons fini avec le buveur de vie, il nous restera le monde entier à découvrir. »
« Ma petite chérie, » dit Victoria, « tu appartiens à Surplomb du Monde désormais. Tu resteras ici pour devenir une de mes acolytes et je t'apprendrai à lire et à comprendre les sortilèges. Très vite, tu seras capable de mémoriser tes dizaines de grimoires. Alors tu auras ta place parmi les mémoristes. »
Victoria tapota le bras de la fillette.
Nietzsche ne l'entendit pas de cette oreille.
« C'est ce que tu veux, Chardon ?»
La gamine regarda alternativement la mémoriste en chef et la magicienne.
« Bien sûr que oui !»
s'exclama Victoria.
« Je vais te prendre sous mon aile, petite, nettoyer ton joli minois et te former. »
Chardon se tortilla sur son banc.
« Je veux apprendre à lire mieux, c'est vrai, et j'aimerais savoir plus de choses, mais je ne resterai pas ici. Nietzsche me donnera des cours pendant que nous sillonnerons le monde. Pour le seigneur Hall, notre mission est très importante. »
Victoria fit un vague geste de la main.
« Des bêtises d'enfant, petite. Mieux vaut lire des aventures que les vivre, crois-moi, et je te protégerai. »
Elle posa une main sur l'épaule de Chardon, la serrant très fort. La petite se dégagea, laissa la robe sur la table où Victoria l'avait posée, et alla se réfugier près de Nietzsche, qui se leva lentement, l'air pas commode.
« Ça suffit, Victoria. Cet enfant est avec nous. »
Peu habituée à être contrariée, la mémoriste en chef se rembrunit.
« Elle a besoin de soins et d'être éduquée. En plus, nous lui apprendrons à utiliser sa mémoire. »«
C'est à elle de choisir, »
lâcha Nietzsche,
« parce que sa vie lui appartient. »« Je veux escalader des rochers et chasser des lézards, »
dit Chardon,
« et Nietzsche m'a promis de m'emmener dans le monde. »
La magicienne nota que la tension augmentait dans la salle. Les érudits avaient cessé de manger pour se concentrer sur la querelle. Victoria foudroya Nietzsche du regard.
« Es-tu la mère de cet enfant ? De quel droit prends-tu des décisions à sa place ? » ?»« Non, elle n'est pas ma fille. Je n'ai jamais voulu devenir mère, c'était mon choix. »
Victoria changea soudain d'angle d'approche.
« N'as-tu jamais songé que tu pouvais avoir tort ? Pourquoi une femme forte, belle et visiblement fertile, refuserait-elle de donner la vie ? Moi, j'ai rêvé d'avoir des enfants sans y parvenir. »
La mémoriste haussa le ton.
« Personne ne m'a jamais refusé une acolyte. Qui es-tu pour oser le faire ?»
Plusieurs réponses traversèrent l'esprit de Nietzsche, qui opta pour la plus frappante.
« La maîtresse de la mort.